Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Philippe Guillaume et Fabienne Loret autour de leur bande dessinée Une féministe révolutionnaire à l'atelier, L'envers de Renaud Flin, paru aux éditions La Boîte à Bulles, en partenariat avec l'Université populaire de Toulouse, le 10 février 2023 à la librairie Terra Nova.
Ah, alors, bon. Eh bien, bonsoir à toutes et tous et bonsoir à Philippe et à Fabienne. Moi, je suis très heureuse d'être ici avec eux ce soir. Fabienne, nous l'avions déjà fait venir lors de la sortie de son livre L'envers de Flin, que je vous conseille également. Nous l'avions fait venir en 2018, je crois, à l'Université populaire Toulouse. Et quand elle m'a appris, parce que c'est elle qui me l'a appris, en fait, qu'il y avait un scénariste qui avait proposé de faire une BD, je me suis dit non, mais c'est bon. Donc je suis allée voir ce scénariste, Philippe Guillaume. Je connaissais bien le livre de Fabienne. Et puis un économiste. Bon, je regarde un peu plus près. Bon, effectivement, j'ai été attirée par son engagement, finalement, dans le choix de ses BD. Je me suis dit, bon, allez hop, allons-y. Mais pour moi, c'était une gageure parce que, voilà, la sortie de son livre, il faut voir que une féministe révolutionnaire à l'atelier, c'est 40 ans. Comment on fait? Parce que je me suis dit, comment on retrace une vie d'engagement politique et social de 50 années, en fait? C'est un témoignage remarquable qu'a fait Fabienne, L'envers de Flin. Je ne sais pas si vous êtes au fait de son engagement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais elle fait partie de ces femmes qui ont été établies dans une usine de Flin à peine 20 ans. Une féministe révolutionnaire, n'est-ce pas? Ou une révolutionnaire féministe, tu diras comment tu veux qu'on appelle. Enfin, elle a fait ce choix-là. Au lieu de continuer ses études de philo, finalement, elle s'est dit, ben non, bon, avec son entourage aussi. Elle était politisée aussi. La Sorbonne, c'était en 68, dans les années 68, 69, 70. Voilà, je ne vous refais pas l'histoire. Hein. Mais comment fait-on, alors pour en revenir à ce travail-là, parce qu'un travail de... Combien il y a de pages, Fabienne? Presque 300 pages qui rendent compte de tout cet engagement politique, des luttes sociales, du collectif, de la solidarité et aussi de tous les problèmes qu'on rencontre lorsqu'on commence à travailler au niveau du salariat, c'est-à-dire le rapport avec le patronat, le rapport avec le capitalisme aussi, avec tout ce qui aussi entoure les chaînes de production, le sexisme, le machisme dans les usines. Remettons-nous dans les années 60. Mais encore maintenant, tous ces thèmes-là sont d'actualité au niveau de ces luttes féministes. Donc je me suis dit, comment c'est possible? Comment rendre compte dans une BD de ce fantastique récit de lutte collective d'apprentissage? C'est d'actualité, je me suis dit, c'est génial. Quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, ils ont fait des choix. Tous les deux ont fait des choix, ils l'expliqueront. Ils ont fait des choix. Leur rencontre, elle a été par hasard, je crois. Hein. Mais comment on rencontre dans une BD avec des dessins? Il y a un choix avec, c'est Elena Vieillard certainement avec vous, le choix d'une bichromie. Donc ça peut paraître, au départ, ça m'a un petit peu surprise. Et puis j'ai trouvé que ça rendait vraiment de la dignité à toutes les personnes dont vous témoignez dans ce livre. Je suis aussi moi-même fille d'ouvrier immigré italien. Et quand c'est Ludivine Bantini qui fait la préface de son livre et qui dit franchement, on est saisi de suite par ce témoignage dans la BD. C'est le corps de suite qui est saisi. On voit tout de suite les corps meurtris, les corps broyés. Bon, et puis ça m'a beaucoup beaucoup touché, voilà. Et les dessins d'Elena et le parti pris que vous avez eu, alors le fil rouge aussi, vous le découvrirez, c'est très très amusant avec ces petits moutons, ces questions-réponses avec les petits moutons dans l'éco-pâturage. Je me suis dit, bravo, et ils ont réussi cette gageure pour toucher peut-être une autre population de militants, parce que nous, ça y est, c'est pas pour nous encore qu'on témoigne, c'est pour nos enfants, c'est pour les jeunes générations. D'ailleurs, les jeunes générations ne s'y trompent pas non plus, puisque là, ils sont dans la rue pour le mouvement des retraites. Hein. Je voulais un petit peu rebondir là-dessus, mais dans la conversation, on pourra rebondir là-dessus. Toutes les luttes y sont, là. Donc, y en a qui s'étonnent. Ah, pourquoi les jeunes sont dans la rue dans les cortèges de manifestations du mouvement des retraites ? Il faut leur poser la question, il faut les écouter. Et eux aussi, ils veulent, comme Fabienne en 68, en 70, que ce monde-là change. Ils veulent prendre en main leur destin. Donc, moi, je vais vous laisser la parole, hein, parce que je vais pas... J'écris toujours trop. Voilà. Mais c'est eux. Non. Je reviendrai sur la... dans la conversation. En tout cas, merci à vous d'être là, à tous les deux, et je vous laisse présenter tout ça.
Tu veux parler d'abord, Philippe ? Je voulais juste préciser que, en fait, le titre, c'est le même titre à l'envers. Parce que le livre s'appelle « L'envers » de Renaud Flin, « Une féministe révolutionnaire à l'atelier », il y a un sous-titre, et là, on a inversé. Et c'est une féministe révolutionnaire atelier, l'envers de Flin. Parce que c'était un accord et on voulait qu'il y ait... C'est un endroit spécifique, voilà, on voulait que ce soit important. Et voilà, je voulais juste préciser, si tu veux... Comment ça a commencé ? C'est Philippe qui va dire comment ça a commencé de passer du livre à la BD.
Oui, c'est un peu de, comme on l'a dit, un petit peu... Pas tout à fait un hasard, quand même. Il se trouve que je m'intéresse, de par ma carrière, j'étais longtemps journaliste économique et plutôt évidemment sur les théories hétérodoxes d'économie. Et puis je m'intéresse à la bande dessinée depuis maintenant que j'ai un peu plus de temps et puis que je ne fais plus de journalisme, et donc je fais un peu de scénario de BD. J'ai fait une vingtaine d'albums depuis 2007 à peu près, et il se trouve que je fréquente à côté de Mantes-la-Jolie une librairie alternative un peu comme ici, et je suis allé à la présentation en 2018 du livre de Fabienne. Et en écoutant Fabienne parler de son livre et avec ses convictions chevillées au corps, ça tournait dans ma tête et je me disais, mais ce témoignage-là, il est très très bien dans son livre, mais il y a certainement matière à toucher d'autres gens en l'adaptant. Et c'est vrai qu'à l'issue de la rencontre, pendant la partie signature, j'ai été voir Fabienne et je lui ai dit, voilà, on ne se connaît pas, mais enfin bon, on a visiblement des convictions assez proches. Voilà, je suis scénariste de BD et je pense qu'on pourrait adapter votre livre en bande dessinée. Alors là, je l'ai vu, elle m'a regardé avec des grands yeux ronds. Elle a dit, qu'est-ce que c'est que cet Olibrius qui vient me proposer ça? Et puis, on a discuté et puis le projet est né comme ça. D'abord, on était tous les deux, puis on s'est mis à chercher une dessinatrice parce qu'il nous semblait que c'était bien que ça soit une autrice qui dessine aussi. Il se trouve que Fabienne, par le biais d'un libraire, a été mis en contact avec Elena. Alors Elena a une histoire aussi qui nous a rapprochés, puisqu'Elena, elle est petite fille d'un syndicaliste de Renault, mais pas de Flin, mais de Billancourt, qui est venu à Flin, oui, me dit Fabienne d'ailleurs, elle a raison de le préciser. Et puis voilà, puis après on a fait le tour des éditeurs. Alors voilà, et la boîte à bulles qui est spécialisée dans les ouvrages de témoignages, ils ont fait aussi avec. Avec Lotte, ouvrier, etc. Bon, ils ont fait pas mal de biographies dans ce sujet de témoignages. Ils ont été très, très enthousiastes à faire ce livre. Alors qu'a mis un peu de temps à se faire, j'avoue qu'on a mis un peu plus de temps que prévu. Il y avait le Covid. Hein. Alors, on a été un peu gênés par les confinements. C'était pas très pratique pour travailler. Voilà. Mais bon, voilà, l'ouvrage est sorti avec évidemment des choix parce que 300 pages ramenées en 130 planches de BD, c'est pas évident. Et puis l'éditeur tenait aussi, tout en conservant l'aspect collectif, et ça on y tient bien, hein, que c'est pas un combat que Fabienne a mené seule, mais c'est un combat collectif. Mais tout en gardant l'aspect collectif, il voulait aussi avoir davantage d'éléments sur Fabienne elle-même. Alors on a rajouté des choses qui sont pas dans le livre aussi. C'est vrai que vous verrez, notamment, on a passé pas mal de temps sur les voyages que Fabienne a fait en Pologne au moment de Solidarność, notamment. Donc voilà un peu comment tout ça est né. On a parlé de la bichromie. Bon, bah ça, c'est en discutant avec Elena. De toute façon, il nous semblait que le noir et blanc était bien adapté. Mais c'est vrai que ces morceaux de rouge qui sortent montrent bien la colère qui sort, hein, parce que c'est aussi un livre qui traduit de la colère. Hein. Et puis après, on a parlé du petit fil rouge, mais ça, c'est une idée de scénariste. Hein. C'est une idée humoristique, c'est-à-dire Fabienne évoque à la fin de son livre les moutons qui ont remplacé les jardiniers à l'usine de Renaud Flin. Et moi, j'ai dit, ces moutons, il faut leur donner une âme, il faut leur donner qu'ils représentent quelque chose. Et donc, les moutons, ils parlent dans la BD. Hein. Ils parlent avec Fabienne, et ils dialoguent avec Fabienne. Et c'est tout à fait symbolique, parce que le mouton qui est là, qui a remplacé le jardinier, il y a les moutons noirs aussi, que Fabienne aime beaucoup. Hein. Elle aime beaucoup les moutons noirs. Voilà, donc c'est un bouquin dont on est assez fier, assez content, et qui a l'air de faire son petit bonhomme de chemin. Voilà.
Merci Philippe. Je voulais juste repréciser effectivement que c'est à la fois un engagement collectif parce qu'on est parti s'établir à plusieurs, déjà quatre dans l'usine de Renaud Flin, mais aussi sur toute la région. On est parti à au moins une bonne vingtaine d'une organisation révolutionnaire qui était une organisation qui était une scission de la LCR à l'époque, de la Ligue communiste, parce que après 68, on est rentré avec mon compagnon de l'époque à la JCR, les Jeunesses communistes révolutionnaires, qui après s'est transformée en Ligue communiste, et on est sorti avec des divergences comme savent les faire les révolutionnaires tous les jours. Non, c'est le sujet est important quand même. C'était sur on n'en parle pas du tout dans le livre, mais c'était sur la question de la nature de l'URSS, de l'Union de la Russe, de l'URSS à l'époque. Les trotskistes, parce que c'était quand même trotskiste, la LCR, disaient c'est encore un État ouvrier. Et la tendance dont on était, de révolution, disait non, c'est un État capitaliste. C'est un État, comment on appelle ça, national capitaliste. Donc c'est pas ça y est, ils ont basculé, ils sont plus un État ouvrier. C'était une des grandes divergences, et aussi sur la question de la place de la classe ouvrière, parce que les révolutionnaires après 68, c'était des étudiants, ils allaient faire leur vie, voilà, et on n'était pas implantés dans les usines. Bon, aujourd'hui, les usines, il y en a beaucoup qui sont disparues, mais à l'époque encore. Dans les années 70-80, il y avait encore pas mal d'usines en France, beaucoup de gens qui travaillaient de leurs mains, etc. Voilà. Donc on est parti à plusieurs. Donc il y avait nous, on était quatre, donc moi et puis trois autres copains, dont un est resté jusqu'à la fin, Jacques, jusqu'à sa retraite dans l'usine, comme ouvrier. Les autres sont partis au moment de Mitterrand, après Mitterrand, voilà, 82. Et puis, on avait des copains qui étaient enseignants, qui travaillaient à l'hôpital, qui étaient éducateurs, qui étaient aussi dans d'autres usines de la région, parce que c'était très industrialisé, la vallée de la Seine, entre, je ne sais pas si vous voyez Paris, l'Ouest, la Seine, on appelait la vallée de l'automobile, parce qu'il y avait déjà Talbot, qui est devenu aujourd'hui, qui était... PSA, puis après, maintenant, comment il s'appelle, Stellantis. Voilà, il y avait l'usine à Poissy et l'usine de Renault-Flins. Et donc, il y avait plein d'usines autour pour la sous-traitance, pour les petites pièces, etc. Et il y avait à Mantes, il y avait à Mantes-la-Jolie, il y avait plein d'usines, il y avait la cellophane qui ont disparu hein, aujourd'hui. Beaucoup de... On a vu ça, donc, sur ces 40 ans, on a vu la dégringolade industrielle, locale, mais qui est aussi dans tout le pays. Hein. Et le fait, voilà, une misère importante sociale. Alors, c'est ça que je voulais préciser, cet engagement collectif. Et que donc, ce n'est pas seulement un témoignage individuel, c'est le récit d'un engagement politique et aussi après un engagement syndical aussi important et notamment sur le féminisme parce que quand on dit qu'on est féministe c'est pas seulement un témoignage c'est aussi vouloir changer le système et au quotidien tous les jours voilà c'est ça et défendre les gens et faire comment dire faire que la prise de conscience se développe et les gens et restent c'est ça aussi qui est l'enjeu du récit. Et comment dire, ça a été quand même un peu un crève-cœur de devoir choisir des choses dont on n'a pas parlé. Mais je trouve que j'avais regretté de ne pas parler de la Pologne parce que ça a été pour les gens qui n'étaient pas. C'était en 80, à l'année 80. Pour moi, je parle de l'année 80 parce qu'elle était très importante pour moi. Il y a eu la Pologne, il y a eu la rencontre avec mon compagnon actuel, donc ça fait plus de 40 ans, 43 ans bientôt qu'on est ensemble, et donc on a un fils qui est là, je le salue. Et c'est vrai que c'est pour moi, c'est aussi une histoire de vie, parce que dans les usines, il y a des histoires d'amour, vous le savez, et on n'en parle pas souvent. Au travail, il y a des histoires d'amour. Il y a un pourcentage important de gens qui rencontrent leur conjoint ou conjointe au travail. Et c'est important de le dire. Il n'y a pas que le boulot, quoi. Il n'y a pas que le syndicat et le boulot, mais aussi les copains, les copines et les amours. C'est important. Voilà. Sinon, voilà, pour l'instant...
Oui, j'ajouterais que pour moi, c'est très intéressant. Moi aussi, j'ai vécu 68, mais j'étais un petit peu plus jeune. J'avais 14 ans en 68, donc je n'étais pas sur les barricades encore. Mais non, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers du parcours de Fabienne et de ses camarades, on a là 40 ans d'histoire sociale et 40 ans d'histoire industrielle ou plutôt de désindustrialisation de la France. Et c'est moi qui m'intéresse énormément à l'histoire contemporaine, je trouve que c'est un livre qui apporte énormément de choses de ce point de vue-là.
Tu montres bien dans la BD, en tout cas dans le livre, bien sûr, tu explicites, mais tu montres bien toutes les rencontres justement à l'intérieur de l'atelier de couture, comment tu essaies de faire prendre conscience aux jeunes femmes, aux femmes, qu'elles peuvent partager les tâches à la maison. Hein. On est en 70, hein. Voilà déjà comment les rythmes sont insupportables, comment le samedi ce n'est pas possible, comment les conditions de travail. Tu tombes dans un atelier où finalement la régleuse, c'est ça la régluse est bienveillante. Bon, ok, tant mieux. Mais il n'empêche, c'est des cadences infernales. Donc, et puis tu montres vraiment dans ce... Vous l'avez vraiment gardé tout ça, et c'est très important. Les échanges dans les ateliers, les ressources aussi, la solidarité, les amitiés qui se nouent. Et ces moments de pause où finalement où c'est très important de prendre conscience de tout ça, la prise de conscience politique. Et puis la bataille, tes questionnements, comment je vais faire, comment arriver à ça, tes colères, comment je vais faire, le sexisme des hommes, hein, puisqu'il y a 10% de femmes à l'usine de Flins, donc ça fait, il y a 22 000 salariés en tout, et combien de
10% de
et 10% femmes. De femmes. Oh, donc ça faire. Vous montre, comme disait quelqu'un, je ne sais plus qui, l'usine de Flins, c'est la jeune dessinatrice qui dit l'usine est fermée, on ne se rend plus compte de la taille de l'usine, mais de la taille des ateliers, hein, et de comment les relations humaines finalement et les relations avec le patronat et les échelles de hiérarchiques se passent dans ces ateliers.
Moi-même, surtout Fabienne. Fabienne ne cache rien. Elle est très lucide. Elle est tu parlais du sexisme. Elle évoque les problématiques du sexisme, etc. Donc, elle ne cache rien. Elle a une grande lucidité, je crois.
Ça, on ne l'a pas dit. L'atelier de couture, c'était l'atelier de couture des sièges où j'étais. C'était l'atelier principal, des housses de sièges. Maintenant, ça n'existe plus. Ils sont moulés. Hein. Donc, l'atelier a disparu. Il est parti un peu à l'étranger, puis après, ils arrêtent. Maintenant, ils ont modernisé. Les sièges sont quasiment plus cousus. Donc, on était 500 ouvrières en équipe. Il y avait des filles en normal et des filles en équipe. En équipe, ça veut dire une semaine le matin, une semaine l'après-midi, en 2-8. Donc, c'était dur. Pour moi, c'était le plus dur, c'était les horaires. Les cadences, c'était dur, mais je suis assez vive. Mais c'était très, très dur, les horaires. Au début, on commençait à travailler à 5h30 du matin. Donc, à l'équipe du matin et l'équipe du soir, on sortait à 11h du soir. Donc, c'est costaud quand même. Ça détériore énormément la santé, le sommeil, la nourriture. Et pour les femmes, ça veut dire double journée de travail, mais vraiment. C'est-à-dire que quand elles sont de 8, elles en font encore plus à la maison. Il y a moins de partage des tâches. Et souvent, les couples inversent les semaines. C'est-à-dire qu'ils ne se voient pas, ils ne se voient que le week-end. S'il y en a un qui est l'équipe du matin, l'autre équipe du soir, pour s'occuper des enfants. Voilà, et c'est souvent comme ça. C'était souvent comme ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas découvert l'usine tout de suite parce qu'il fallait qu'on se fasse un passé ouvrier. Donc, on a tous été un peu dans des petites entreprises de la région. Et moi, l'entreprise où j'ai été, la première, je vous raconte, c'était à l'usine à Mantes-la-Ville, à l'usine de biscottes. Gringoire, je ne sais pas ce que vous venez de cette marque, Gringoire avec le petit lapin là. Donc, et j'étais ouvrière à la chaîne, alors là c'était épouvantable. Donc,
c'est dans le livre.
C'était vraiment épouvantable. Alors on commençait à 5h du matin, là, et on terminait à 2h. Enfin, c'était vraiment, les horaires c'était dur, mais c'est surtout toute la journée, on était à la chaîne et on avait un truc qui circulait avec les biscottes et il fallait qu'on les prenne. On prenait les biscottes d'un tapis qui venait, on les mettait dans les casiers qui tournaient devant nous, et au fond, elles allaient dans le sachet. Et c'était très chaud. Alors, il n'y avait pas vraiment de solution parce que soit on faisait bien le travail, on n'écrasait pas les biscottes et on se brûlait les bouts des doigts, soit on mettait des bouts de tiro de scotch et on n'arrivait pas très bien à les prendre. Donc, il fallait vraiment un coup de main compliqué et ça faisait très, très, très mal au dos parce que. On essaye toujours quand on est à la chaîne de gagner du temps, d'anticiper. Donc on se penchait très loin pour gagner, mais pas 10 secondes ou 20 secondes de répit pour se remettre droite, pour avoir moins mal aux reins. Et c'était assez dur, mais il y avait une ambiance super. Voilà, j'ai découvert comme ça la classe ouvrière chez Gringoire. Après, à l'usine, c'était un peu différent parce qu'on n'était qu'avec que des femmes, parce que les hommes étaient à la fabrication et nous, on était à l'empaquetage. Et c'était voilà. Et quand je suis partie, l'usine a disparu. Je suis partie à Renault et dans l'année où je suis partie, elles ont fait grève. Je n'étais plus là. Bon, c'est pas grave. Et donc c'est vrai que c'est quand je suis arrivée à quand on parlait du machisme à l'usine de Renault, j'ai après assez vite en entendant des hommes et on met la scène dans la BD que les hommes dénommaient la couture le parc à moules.
Très élégant. C'est horrible.
C'est délicat. Hein.
La moule étant sans représentant. Je ne sais pas si ça se dit encore maintenant, la moule pour le sexe de la femme, parc à moule. Et en lisant plein de livres et en ayant des copines qui étaient en usine, c'était dans beaucoup d'usines où c'était, il y avait des ateliers de femmes et des hommes à côté, on disait le parc à moules pour les femmes. C'est un, voilà, c'était une habitude qui, j'espère, a dépassé. Et c'est vrai que tout de suite, j'étais confrontée à cette histoire de machisme dans l'usine. Mais ça ne m'a pas empêchée de devenir déléguée, d'aller. Mais c'est du mal aussi d'aller sur les chaînes. Ce n'était pas facile. Et tout de suite, on a été confrontés aux grèves. Parce que, et ça, c'est très important. 73, c'était un an après que je sois rentrée. Une grève énorme et commence aux presses. Et là, on était jeunes quand même. On découvre ce que c'est qu'une grève massive d'ouvriers qui se révoltent et qui n'ont jamais fait grève, puisque c'était leur première grève aussi. C'était les ouvriers qui avaient été embauchés après 68, qui étaient étrangers, qui venaient de l'Afrique, enfin Afrique du Nord, Afrique. Il y avait beaucoup de Maghrébins, surtout des Marocains, des Tunisiens, il y avait aussi des Portugais et des Sénégalais et des Maliens. Mais il y a eu jusqu'à 50 nationalités à Renault-Flins. Mais la majorité, c'était ceux-là. Et ils avaient été. C'était Renault qui les avait fait venir et qui avait pensé, on l'a su, qu'ils n'allaient pas aller embaucher des gens comme les Algériens de Billancourt, qui étaient très alphabétisés et qui étaient très révoltés assez vite. Hein, et puis ils avaient connu la guerre d'Algérie. Et donc, ils ont été chercher beaucoup d'ouvriers qui étaient non alphabétisés. Voilà. Donc, ils pensaient qu'ils ne se révolteraient jamais. Et voilà. Et en fait, non, la lutte des classes, elle est là. De toute façon, qu'on sache écrire, lire ou pas, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et donc, on a découvert ça. Et la question de l'immigration est extrêmement importante parce que non seulement il y avait du machisme, mais il y avait du racisme aussi dans l'usine entre les ouvriers, les salariés, disons, les salariés français et les étrangers. Et la direction laissait courir. Et il y avait effectivement des gens qui étaient racistes. Mais ça, c'était l'époque hein, aussi. Et comment dire ? Donc, on a découvert ces grèves qui étaient voilà, un peu débridées, mais qui étaient. Et moi, c'est le jour de ma première grève. Je vous raconte la première grève où on voulait sortir avec mes copines. Et voilà. Moi, je ne vous dis pas parce que ça a été un peu compliqué. C'est la première grève un peu difficile. Et puis après, je suis devenue déléguée. Mais ce que je voulais dire, c'est que tous ces luttes, ces conditions se tricotent ensemble. Dans le combat syndical, politique, etc. C'était vraiment quelque chose qui nous touchait beaucoup et on était toujours sur la brèche quoi là-dessus.
Absolument. Puis on raconte dans le livre aussi que tu militais aussi en dehors de l'usine pour les foyers des travailleurs, pour la grève des loyers, etc. Tu faisais tout ça aussi, tu étais engagée aussi, pas seulement dans l'usine, mais aussi à l'extérieur.
Et au niveau du féminisme aussi.
Aussi pour les femmes, oui.
Parce que le féminisme, il date de longtemps, il date après 68, quand même, dès les années 70. Vous rappelle que la création du MLF, c'est 1970. Et quelques femmes, une douzaine de femmes, sont allées porter une gerbe à la femme... du soldat inconnu, encore plus inconnu que le soldat, et ça fait voilà. Et c'est comme ça que le mouvement est né. Et il y a eu la bataille dès 73 pour le droit à l'avortement. Là, on parle de l'avortement, ça commence là. Et il y a eu le MLAC, c'était le mouvement pour la libération de l'avortement et la contraception. On avait déjà la contraception, mais pas vraiment, elle n'était pas remboursée encore. Mais le droit à l'avortement, et moi j'ai aider des femmes à avorter, puisqu'il y avait des médecins qui faisaient des avortements
clandestins.
Ah, ouais, oui. Clandestins, mais vraiment sécurisés. Donc j'ai aidé plusieurs femmes à le faire. Et on avait créé
une commission féminine.
Un collectif MLAC sur l'usine de Renault-Flins à l'initiative de la CFDT. Qui était à l'époque assez à gauche sur Flin, sauf que le militant historique qui faisait les meetings et tout ça, Paul Rousselin, qui était un mec super, il était d'origine catholique et ça, l'avortement, ça ne passait pas. Il est parti presque un an, il supportait pas, il est parti. Après, ça s'est calmé, il est revenu. Mais on voit les contradictions internes dans la classe ouvrière, toutes ces histoires de vie importantes. Voilà.
Mais justement, oui, dans l'usine, c'est une question que je me posais. Tout ça, c'est très imbriqué, évidemment, avec ta vie personnelle aussi, puisque avec tes compagnons, que ce soit Nicolas ou Jama, vous avez été aussi à l'extérieur aussi, vous avez milité, à l'intérieur de l'usine, vous avez milité. Mais je me disais, est-ce que maintenant, ce serait possible et qu'on t'évincerait pas de suite, qu'on te réduirait pas au silence, quoi. Je me disais, parce que quand même, tu étais sur tous les fronts. Hein, quand tu as été, même si tu n'étais pas seule, mais il a fallu quand même, regarde, l'avortement, le féminisme, la contraception, ce n'était pas évident de parler à la fois au travail, à l'extérieur. Bon, je me suis posé la question en lisant. Je me disais que dans... Mais je ne sais pas, parce que moi, je travaille dans le public et je ne travaille pas dans le privé. Donc, peut-être, il y en a qui peuvent répondre dans la salle. Comment ce serait possible ? Il y a des syndicats, il y a des syndicalistes, et j'en connais aussi qui font un travail formidable maintenant. Mais là, c'est une période tellement, tellement difficile, tellement dure, tellement sensible sur beaucoup de points. Je me posais la question, maintenant. Est-ce que ce serait possible sans qu'on te réduise au silence, toi et quelques-unes ?
Je pense que déjà aujourd'hui, dans les entreprises, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit dans les services publics, dans l'éducation, à l'hôpital ou partout, c'est très difficile d'être militant. On apparaît un peu comme des zombies, quoi. Bon, là, il y a le mouvement sur les retraites, etc. Ça ressort un petit peu. Mais au quotidien, c'est difficile. Qu'on soit syndiqué ou pas, et qu'on soit d'origine ouvrière ou pas, c'est très difficile. Les syndicats ont perdu en influence de façon très, très importante depuis ces années-là. Et c'est dû au fait que les employeurs les ont saqués, quoi. Voilà, ça a été un saccage quand même. C'était compliqué d'être militant après. Pas mal d'années, je trouve. Là, les syndicats dans les entreprises. Et d'abord, il y a beaucoup moins d'entreprises. Déjà.
Il y a des syndicats qui sont devenus réformistes.
Hein, voilà, aussi.
Alors qu'ils étaient en pointe à l'époque.
Oui, parce la CFDT, oui.
La CFDT, 73, c'est l'ELIP, c'est l'autogestion, quand même.
L'ELIP, on a vécu l'ELIP aussi. C'était vraiment super génial. On en parle un petit peu. Mais aujourd'hui, les entreprises, nous, ce qu'on a vu, c'est que ça a basculé dans les années 90. Eh bien, au niveau de l'emploi, les gens étaient tous en CDI, donc il y avait moins de risques. Et il y a eu l'intérim qui est arrivé. Et quand très très vite, vers les années 90-2000, eh bien, sur les chaînes de montage, avant, il y avait effectivement 80% de travailleurs immigrés en CDI, mais là, maintenant, l'usine, elle est quasiment fermée, hein, elle ne fait plus grand-chose. Mais donc, quand je suis partie en 2008, eh bien, il y avait 80% d'enfants, d'immigrés qui étaient français, mais qui étaient intérimaires sur les chaînes. 80% d'intérimaires sur les chaînes. Comment on peut faire une grève ? C'est impossible. Les intérimaires, ils ne peuvent pas faire grève. Ils perdent leur contrat tout de suite. C'est... Et des CDD et tout un tas de contrats d'emploi précaires d'emploi. Il y a les CDDI, il y en a toute une sorte de contrats qui ont cassé le collectif ouvrier dans le pays. C'est important, ça. Et y compris dans les services publics. On le voit, comme ils sont en train de casser tous les services publics, là. Mais ça a commencé depuis quelque temps, depuis plusieurs années. Hein. Et après, on dit les gens ne veulent pas bouger. Ben oui. Ils veulent pas faire grève parce qu'ils ont pas d'argent. Ils ont peur de perdre de l'argent. Ça compte l'argent, oui. Quand on fait 3-4 jours de grève, oui, ça compte. On peut le résoudre avec les caisses de grève. Ça, il faut parler des caisses de grève. Mais il y a les représailles quand on revient de la grève, que ce soit même dans l'éducation nationale. Les gens, le harcèlement moral, il est utilisé comme méthode de management. Moi, je l'ai connu, le harcèlement moral. Je l'ai pas connu dans l'usine. j'ai connu au comité d'établissement, même dans les comités d'établissement, gérés par des syndicats. On peut utiliser le harcèlement moral pour se débarrasser de gens. Et justement, effectivement, aujourd'hui, si je retournais, eh ben, je subirais du harcèlement moral pour me faire partir, pour dégoûter les gens. Ça n'était pas encore en place. Maintenant,
c'est des techniques maintenant éprouvées par le patronat, par la classe politique aussi, donc pour diviser, pour que le collectif n'existe plus. Hein, on le voit bien. Tu décris là, dans la bande dessinée aussi la période où le patron concède dans l'atelier la modernisation. Ah, et c'est intéressant, je te laisse décrire parce que c'est intéressant aussi.
C'est arrivé après la grève, justement, après la grève de la couture, on est tous sortis, c'était génial. Elles sont sorties, les trois quarts de l'atelier sont sortis. Et c'est, quand les femmes font grève dans une usine où elles sont minoritaires, là, le patron il peut s'inquiéter. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme quand on disait, quand Billancourt... fait grève, la France s'enrhume. Voilà, la France. Voilà. Quand Billancourt éternue, la France s'enrhume. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. S'il y a des grèves sur les retraites, effectivement, il y a des symboles, des choses qui peuvent faire bouger. Mais là, c'est vrai que après la grève de la couture, la grève, elle était pas seulement pour avoir un coefficient supérieur, mais pour les cadences. Parce que chaque fois qu'on avait des nouveaux modèles de voitures, et il y en avait souvent, les temps d'opération changeaient, c'est-à-dire étaient raccourcis. C'est-à-dire si vous aviez coudre un truc comme ça, ben vous avez, mettons, une housse, vous aviez une minute, et ben là après c'était 80 secondes. Voilà, c'était toujours même 40 secondes. Il baissait tout le temps le temps d'opération. Je suis nulle en calcul. Je sais écrire, mais alors compter, c'est une catastrophe. Et c'est vrai que c'était les conditions de travail, les temps d'opération qui faisaient qu'on faisait de plus en plus de pièces. Et on a eu des négociations là-dessous, mais on n'a pas vraiment gagné. Alors, ils nous ont eu en créant, mais j'en parle, des groupes de travail pour qu'on fasse des propositions. Là, il y a eu un dilemme. Est-ce qu'il faut y aller dans des groupes de travail pour préparer la modernisation de l'atelier et voir comment on pourrait aménager, etc. Et avec il y avait une déléguée CGT avec qui je m'entendais pas trop mal en tant que CFDT. Et on a dit, on essaye. Voilà, on y va. Et on a réussi à faire des choses. On a réussi à faire, du coup, à montrer toutes nos revendications. Il y avait des ouvrières qui étaient dans ces groupes de travail. C'était vraiment très intéressant. Mais ils ont modernisé l'atelier, mais ils l'ont modernisé en surface. C'est-à-dire que les revendications principales, on voulait changer les machines à coudre. Elles existaient depuis 1952, l'ouverture de l'usine. Et en 1980, il y avait encore les mêmes machines. C'était des très bonnes machines allemandes, très solides, etc. Ce n'est pas les machines à coudre de ménage qu'on a à la maison. C'est des gros tacos qui font beaucoup de bruit, qui sont vraiment durs à manipuler. Et on demandait, nous, changement de... Mais ils nous avaient dit, une machine, ça coûte 1 million, c'est 7 postes en moins. J'ai plus 7 ou 8 postes en moins. Voilà. Si vous voulez des machines, ça nous coûte 7 postes. Voilà, c'était le choix. Ou vous avez des machines neuves, ou on... Voilà. Si vous voulez garder le personnel, ben non, on ne peut pas. C'était ahurissant, quoi. Alors, on a eu, effectivement, des nouvelles tables, mais avec les vieilles machines. Voilà, des belles tables comme ça. On a eu, voilà...
Plantes.
Oui, quelques plantes. On avait toujours autant de courant d'air. Bon, on a eu des bricoles, des blouses. On avait demandé des blouses. Oui, on a demandé des blouses. Bon, on a eu les blouses, mais elles étaient bleues, comme au lycée, quand j'avais 17 ans. Voilà, dans un tissu très riche, etc. On avait demandé d'avoir plusieurs couleurs. Non, c'était le bleu dans un côté. On les a mises parce qu'on les avait gagnées. Mais après, on a remis nos anciennes blouses à fleurs parce que c'était... Voilà, c'était un peu... On a obtenu des petits trucs, quoi, mais sur le fond. Et donc, comme Renault commençait à externaliser beaucoup et petit à petit, l'atelier de couture a disparu. Plein de filles, on leur a proposé d'aller ailleurs, de devenir jockeys, ou d'aller dans les bureaux, ou d'aller dans des postes plus intéressants. Elles ont accepté. Et petit à petit, l'atelier... Moi, quand je suis partie de l'atelier, c'était en 83, en novembre 83, parce que j'avais eu l'occasion de... Je sentais que c'était fini, et j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer au comité d'établissement que la CFDT avait gagné sur la CGT, et on m'avait proposé un poste important. Je pouvais faire une formation pour être discothécaire c'était super quand même. Je me disais pas, voilà, je sais que l'atelier allait partir et j'aurais pas d'autre place dans. Donc c'était pour moi, c'était aller au CE, c'était rester en lien avec l'usine, parce que le comité d'établissement est en lien avec les salariés, évidemment. Et donc j'étais embauchée là-bas, voilà. Donc jusqu'à la fin. Et après, j'ai vécu des choses importantes aussi graves avec des dirigeants syndicaux, notamment Force ouvrière. Très, très dur.
Raconte.
Il faut lire le livre.
Franchement, je comprends les gens qui sont un peu sceptiques sur le rôle des syndicats à certains moments. On est patron quand on dirige un CE. Voilà, on est patron. Et on peut faire des choses dégueulasses quand même. Dégueulasse avec les salariés des comités d'établissement.
Oui, tu en parles de la limite. La bascule peut être tentante et facile, en fait, à son insu aussi. Hein, c'est pas facile du tout. Peut-être avez-vous des questions à poser à Fabienne et à Philippe.
Est-ce que le féminisme a aidé le syndicalisme ou un peu, assez de ce que vous avez déjà raconté, ça semblait... Ça semblait pas être aidant, en fait, d'avoir des propos féministes, de défendre ces principes-là, en fait. J'aimerais bien entendre davantage sur en quoi ces luttes féministes ont pu aider à syndicaliser, à partager des revendications, des choses comme ça.
Oui, je sais pas mieux aujourd'hui. Hein. Je suis pas sûr que les propos féministes soient si acceptés que ça partout. Donc oui, les propos féministes, c'était juste question de droit, déjà, de l'égalité, et puis d'être respectée. C'était aussi dans les syndicats, effectivement, il y avait des... Moi, à la CFDT, franchement, j'ai pas eu jamais de problème, vraiment très rarement. Si la première fois que je suis rentrée... Il y a un copain qui a rigolé en me tendant un balai. Je lui dis, tu te fous pas de ma gueule. Voilà, donc c'était des blagues, mais les blagues sont souvent... Donc, c'était... donc il n'a jamais recommencé, parce que j'ai vraiment répondu vertement. Mais j'étais longtemps la seule déléguée. C'était très difficile pour les femmes d'être déléguées. La CGT, ils avaient un peu plus de délégués. Mais pas tellement que ça. Ils en avaient 3 ou 4. Et c'était le syndicat qui était plus fort. Mais à la CFDT, c'était dur. Mais quand je suis partie, quand même, il y avait 2 copines qui ont été déléguées. Je ne suis pas partie sans... Quand je suis partie au CE, il y a une copine qui m'a dit « je te remplacerai ». Et voilà. Et j'étais très contente d'avoir passé le flambeau. Voilà. Mais pour les femmes, le problème, c'est que les femmes elles-mêmes ne sont pas féministes. Sinon, on aurait déjà fait la révolution. Voilà. c'est pas, voilà. Et donc les ouvriers ne sont pas non plus tous anticapitalistes. Hein. Donc, on a du boulot. Donc, c'est tous les jours. Donc, moi, je discutais beaucoup avec les femmes quand on parlait de la double journée de travail. Elles disaient, mais non, c'est à nous de faire ça. Je dis, moi, non, je déteste ça. Et on partage. Et voilà. Et c'était ébahi quand je disais, dans les années 70, que mon compagnon, il faisait la vaisselle, il faisait la cuisine, il faisait les courses, et il repassait. Moi, je déteste repasser. Alors, voilà. Donc, je déteste tout ce qui est ménager. De toute façon, mais c'est vrai que je baigne là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est... comment dire, déjà le fait d'avoir aidé des femmes pour la question de l'avortement, c'est déjà un acte féministe. Après, c'est pas forcément après, il y a la culpabilité, c'est pas forcément évident quand on aide une femme, elle est d'accord, mais après, c'est lourd pour elle parce qu'elle me, je lui renvoie tous les, si elle me voit, je lui renvoie tous les jours ce qu'elle a fait, alors que il y a quand même, c'était tabou l'avortement quand même, c'était quelque chose qui était contesté, il fallait pas le faire, quoi. Et surtout que c'était clandestin à l'époque. Voilà. Et sur les rapports avec les hommes, quand les femmes, elles rigolaient sur le fait que l'atelier s'appelle le parc à moules. Et quand nous, quand on passait sur les chaînes, une femme qui passait sur les chaînes, on était sifflés systématiquement. Et les chaînes, elles font 800 mètres de long. Hein. Alors, quand j'allais militer sur les chaînes de la série en dessous pour prendre les timbres des syndiqués, d'abord, il ne faut pas être en jupe. Hein, mais même avec une blouse jusqu'en bas des mollets, on était sifflé quand même. Quel que soit son âge, quel que soit une femme est sifflée. Et c'était un jeu. Mais moi, je ne prenais pas comme un jeu. Quand on va dans un atelier, mais ce n'était pas seulement sur les chaînes, quand on va dans un atelier d'ouvriers professionnels, fraiseurs, etc., et que partout on voit que des calendriers de femmes nues, waouh, au secours quoi. Maintenant c'est interdit, hein. Il y a des règlements, c'est interdit les calendriers de femmes nues dans les entreprises. Mais à l'époque c'était tout à fait courant et les sifflements, donc c'est mais il y a eu des avancées quand même là-dessus. Je pense qu'il y a eu quelques, mais bon, les blagues sexistes elles existent toujours, la main aux fesses aussi, le harcèlement sexuel, voilà, les féminicides, enfin tout ça c'est. Ça bouge pas énormément, hein. Et on a beau faire des manifs, des colloques, des rencontres, etc. Et ouais, mais c'est le féminisme, oui, il s'organise. Il y a plein de courants féministes, mais c'est pas évident, je crois. Mais à l'époque, c'est vrai que, mais bon, c'est allé pas si lointaine parce que moi, je suis partie du CE, je suis partie en 2008, mais j'ai continué à militer et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas le sujet principal. En tout cas, dans une usine comme ça, c'est pas le sujet principal. Mais on a fait des choses importantes. Quand la CFDT a géré le CE, on a bougé beaucoup de choses. Par exemple, la fête des mères. Je déteste la fête des mères. Voilà, vraiment, c'est... Nous, dans les années 70, on disait, ah bah, la fête des mères et tout ça, on refusait la fête des mères. Mais les CE, c'était difficile dans le milieu ouvrier. Ils faisaient un cadeau de la fête des mères. Alors, le premier mois où je suis rentrée à l'usine, c'était en mai, c'est le mois de la fête des mères, je vois mes collègues qui reviennent, ils étaient contents du CE, ça. À un moment, leurs cadeaux, ils étaient toutes là avec un tablier de cuisine et une manique pour servir les plats. C'était vraiment, c'est pas possible quoi. Donc le lendemain, on a fait un tract incendiaire de notre organisation révolutionnaire en traitant la CGT de tous les noms. Voilà comment ils considéraient les femmes. L'année suivante, ils ont offert un seul cadeau, comme d'habitude, une potiche, symbole quoi, grosse potiche blanche avec un mot. Mais les femmes, elles étaient contentes.
Les Catherinettes.
Les Catherinettes. Alors, 75 arrive... mes 25 ans, puisque je suis née en 50. 25 ans en 75. Et je savais qu'il y avait les Catherinettes. Alors, c'est surtout dans les milieux de la couture qu'on fait les Catherinettes. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toute une histoire. Donc, on doit avoir un chapeau avec les couleurs de l'entreprise, ces couleurs vertes et jaunes, et fabriquées dans l'entreprise. Et on doit se balader toute la journée avec les autres Catherinettes dans l'usine. Et chaque fois qu'on rencontre un homme célibataire, il a le droit de nous faire la bise. Et après, il y a un pot avec le patron dans les entreprises, le patron, le chef, voilà, pour fêter les Catherinettes. Alors, arrive ce jour-là. Les filles, elles me disent, Fabienne, on t'a préparé un chapeau. Il y avait quatre ou cinq autres filles. Un chapeau qui a été fait à la coupe avec par les ouvriers de l'atelier. Voilà, avec amour. Hein. J'ai dit, non.
Vous verrez sa réaction dans le livre.
Donc ça n'a pas passé. Et moi, oh, t'es pisse froide, tu sais pas rigoler. Je dis, non, il est hors de question que je mette ce truc-là sur ma tête. Je suis contre. D'abord, je ne suis plus vierge, parce qu'une Catherinette doit être vierge, normalement, je ne suis plus vierge. Je vis avec un homme, donc c'est comme si j'étais mariée, mais on n'est pas mariée, donc je ne peux pas être Catherinette. C'est pas, voilà. Et je suis contre cette fête. Voilà, c'est tout. C'était bon, tout. Ouais, plein d'épisodes comme ça qui font qu'effectivement, les femmes intègrent ça, et c'est du boulot, ça met des années, des tonnes d'années. Et voilà, c'est l'éducation à la base, à l'école, partout. Quoi. Maintenant, on n'en parle plus tellement des Catherinettes, hein. Mais il y a encore la fête des mères, franchement. Comment c'est possible qu'il y ait encore ça, il y a encore la fête des mères avec des cadeaux. Alors maintenant, il y a des cadeaux ménagers, mais il y a aussi des cadeaux pour être belle. Voilà. Et puis aussi pour peut-être aussi sortir, se cultiver. On peut offrir un livre pour la fête des mères ou un carnet de cinéma. Ça va, quoi. Mais il y a toujours autant d'heures de ménage, de travaux ménagers que font les femmes. Ça ne pèse pas beaucoup, hein, le partage des tâches.
Non, il y a toujours une charge mentale très importante pour les femmes, de toute façon. Une différence de salaire, mais encore de 20 à 25%. Et puis, pour les retraites, ils ont essayé de nous vendre ça en disant que c'était favorable aux femmes. Eh bien, oui, allons-y, on les croit. Donc, non, on ne les croit pas du tout. Les jeunes sont dans la rue, ils savent pourquoi aussi. Avec, voilà. Donc, non, quand tu parles... Moi, je suis estomaquée de voir qu'en 70... bon, moi, j'étais petite encore. Enfin, j'avais 12 ans. 68, donc tu vois, j'étais pas sur les barricades non plus, mais ma mère avait pris soin, j'étais dans un lycée, elle avait pris soin de me mettre en vacances au mois de mai-juin, et je suis partie en vacances au bord de la mer avec la famille, parce qu'il fallait surtout pas que je me dévergonde, parce que moi j'adorais les mouvements un peu comme ça, donc il fallait pas. Donc c'est après que j'ai eu une conscience plus tard, politique de tout ça. Mais quand tu témoignes de 70 et de tous ces événements-là, moi, j'ai toujours été choquée de voir, pas si longtemps, des femmes qui se réjouissaient d'avoir un fer à repasser pour leur fête, de partir à 5 heures parce qu'il fallait qu'elles rentrent très vite pour récupérer les enfants. Je parle d'enseignants, hein, j'étais enseignante, donc, et qui demandaient l'autorisation à leur mari pour rester parce qu'il y avait encore un travail où il fallait qu'elles restent encore une heure au travail. C'est pas vieux, c'est encore maintenant. Enfin, moi, rien n'est acquis, rien n'est jamais acquis à l'homme, mais à la femme encore moins, hein, ouais, c'est ce que je dis. Donc moi, je ne sais pas l'expérience que vous avez, comment vous voyez l'avenir de ce point de vue-là. Moi, je manifeste beaucoup avec les jeunes pour le climat en ce moment, sur les questions écologiques et tout ça, et je dois dire que je me sens bien avec les jeunes, parce que peut-être parce que j'ai vieilli aussi, et puis parce que j'aime bien, mais parce que aussi je sens plus. Moi, je trouve que ma génération, les hommes, c'est pas ça encore, et les femmes non plus, parce qu'on a éduqué nos fils, nous sommes responsables de l'éducation qu'on a donnée à nos fils aussi. Oui, mais le mien aussi, hein, le mien aussi, mais en même temps, quand on regarde à la sortie d'une école, vous regardez les comportements des jeunes mamans, moi j'hallucine encore. Hein. Il y a eu des tas d'études qui ont été faites par des sociologues là-dessus. Bon, rien n'est gagné. Bon, revenons à nos moutons, pour le coup. Une autre question, peut-être ?
Du coup, moi, j'avais une question. Vous parliez de l'avortement tout à l'heure. Et du coup, vous racontiez que c'est quelque chose pour lequel vous avez lutté. Donc, l'acceptation de l'avortement, etc. Et qu'est-ce que vous ressentez maintenant quand cette question est de nouveau maintenant dans les débats publics, notamment aux États-Unis, avec l'abolition, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais l'interdiction de l'avortement dans certains États, et qu'on revienne et on était enfin libre de notre corps au final, et que le corps de la femme redevient un débat politique.
Il a toujours été, mais c'est ce que dit Stella, rien n'est jamais acquis. Et là, je vous signale que quand même, on a connu la retraite à 60 ans. Et là, on est à 62, on va nous mettre 64, jusqu'à 70 peut-être. Donc, il y a toujours, c'est une lutte permanente, c'est la lutte des classes, voilà, c'est la lutte contre le système économique et le système patriarcal. Il faut toujours se battre, c'est jamais acquis. Faut toujours être vigilant, là, ce qui se passe aux États-Unis, mais dans plein d'autres pays, c'est terrible, quoi. Aujourd'hui, en France, c'est une catastrophe quand même. Au niveau social, il y a des reculs phénoménaux, quoi. Et des choses qu'on a laissées venir. La question de l'intérim, on l'a laissé venir. Les syndicats l'ont laissé venir. Moi, je l'ai vu, parce que c'était compliqué quand même. Mais on l'a laissé venir. Et maintenant, c'est mort, quoi. C'est déjà, les entreprises, il n'y en a plus, beaucoup moins. Regardez dans les services publics comme à la SNCF, le nombre de statuts qu'il y a, aberrant, quoi. Après, on dit les gens ne veulent pas grève. Ben oui, c'est sûr. C'est compliqué. Mais je pense qu'il faut quand même continuer. Il ne faut pas lâcher. L'histoire, c'est aussi des hauts, des bas. C'est par vagues comme ça. Et je pense que ça a toujours été comme ça, l'histoire. Donc, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Il y a des choses qui restent quand même. On ne peut pas dire qu'on ne revient pas au Moyen-Âge, quand même. Hein, il y a quand même des acquis, mais il faut toujours se battre bec et ongle pour garder ses acquis et les améliorer. Et c'est surtout ce qu'il faudrait, mais on n'est pas encore là, c'est changer carrément le système. C'est qu'on arrive à démolir ce système.
Rien que sur le système des retraites, bah Philippe, tu peux peut-être en dire deux mots, mais quand on essaye de nous vendre ce système en disant que les caisses sont vides, c'est toujours le même problème, la sécurité sociale, on nous dit elle est en danger, notre système de sécurité sociale par répartition est en grand danger, etc. Mais c'est faux, on le sait bien, on le sait, non, justement, on ne le sait pas. Donc il y a un très bon papier dans le monde diplomatique de Nicolas Da Silva sur justement de 95, de cette bataille-là de 95 et qui développe un petit peu ce système des retraites. À lire. Bon, voilà.
Si vous allez sur le site des économistes atterrés, il y a des analyses très, très précises qui montrent que les données du corps montrent très clairement que le système n'est absolument pas en danger, comme on nous le dit. Hein. Le problème démographique est absorbé aujourd'hui, donc on l'a absorbé. Donc, voilà.
Dans le livre aussi, Fabienne, tu parles de 81 de Mitterrand, le droit de vote des étrangers. Regardez où on en est là. Regardez à ce moment-là, vous parlez de régression pour l'avortement, pour les luttes. Oui, on est en pleine régression au niveau de l'Europe, mais regardez par rapport au vote des étrangers qui habitent. Voilà. C'est le politique, là.
Et recul
sur la loi.
Mon compagnon, il est marocain. Il est arrivé en France en 72 ou 73. Eh bien, il ne veut pas prendre la nationalité. Il a le droit. Il devrait l'avoir. Parce qu'il dit, je dois l'avoir. Elle a été promise. Voilà, il ne veut pas double nationalité. Il reste marocain. Ben, ce n'est pas normal. Ça fait depuis ces années-là, il est en France. Donc, c'est anormal, quoi. C'était des promesses des socialistes. Alors là, Mitterrand, là, c'est...
Oui, bonsoir. Voilà, merci de partager votre expérience. J'aurais voulu connaître un peu quelles étaient les relations entre salariés, ce qu'on appelle les managers aujourd'hui, et les syndicalistes avec ce qu'on appelle aujourd'hui les ressources humaines. Et je crois qu'à l'époque, ce n'était pas les ressources humaines. Non.
Ça a commencé dans les années 80, oui, il y a cette histoire des groupes de travail là, qui nous ont offert. On a tenté le truc, mais c'est toujours des entourloupes, quoi. On essaye de faire croire aux salariés qu'on va les écouter et qu'on va faire de la concertation, etc. Mais en fait, non, c'est du pipeau, quoi. Bon, faut en avoir conscience. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de faire ça. Et c'était l'époque où il y avait, effectivement, c'était... l'époque Mitterrand, donc à Renault notamment, il y avait plein de socialistes qui étaient dans les hautes sphères, et on avait un chef d'atelier socialiste, mais c'était pire que les autres, parce qu'il était beau parleur, etc., mais nous, c'était un bonimenteur, quoi. L'histoire des groupes de travail, c'était vraiment, on l'a fait, moi je regrette pas, mais franchement, c'est de l'arnaque. C'est l'arnaque. On fait croire aux gens qu'ils peuvent participer, soi-disant. Ouais, tout le truc sur la participation à un moment. Là, c'est non, on ne veut pas participer, on veut le pouvoir. C'est ça. On veut qu'ils s'en aillent, on veut le pouvoir. Il faut le dire clairement. Moi, je pense qu'il faut être. Moi, je suis de plus en plus radicale. Voilà. Je pense qu'il faut arrêter de nous emberlificoter avec des trucs comme ça.
La question que pose monsieur est intéressante parce que. Il y a les termes employés, notamment. Il faut faire toujours. Les mots ont un sens. On parle de ressources humaines pour parler de gens, quand même. Hein, comme on parle de charge sociale. C'est toujours une charge, hein, vous voyez, vu du point de vue du patronat. Hein, du point de vue du patronat, les hommes sont des ressources. Les hommes ou les femmes. Je disais hommes au sens humanité, quoi. Mais ce sont des ressources, quoi. Donc, c'est pas par hasard. Hein.
Ça, c'est vrai que la période où on pensait que ça allait changer, il y a eu quelques acquis quand même. On a eu la cinquième semaine de congés payés. C'est déjà pas mal. Voilà.
Elle reste.
Il y a des choses qui restent. Mais sur le reste, on ne peut pas dire que...
Les acquis de 80, il n'y en a pas beaucoup qui restent aujourd'hui.
RTT, oui. Oui. Ah ben maintenant, qui est-ce qui fait 35 heures? Il y en a combien qui font 35 heures?
Des lois aux roues, il reste pas grand-chose. Hein.
Oui, c'est un peu plombant, mais je veux dire, il y a quand même des choses positives, je trouve, qui ont fait avancer. Mais faut pas avoir non plus d'illusions, quoi. Mais je pense que moi, je cite la dernière phrase que je dis, c'est voilà. Une citation de Daniel Bessaïd, que j'aime beaucoup, ce philosophe de la LCR et du NPA. C'est voilà, nous avons gagné, nous avons eu beaucoup de défaites et quelques victoires, mais nous avons gagné le droit de recommencer. Mmh. Voilà, ben oui, on recommence tout le temps jusqu'à ce qu'on y arrive, quoi. Donc faut pas se décourager parce qu'on a des petites victoires quand même. Il y a des choses qui arrivent. Voilà, dans mon parcours, il y a eu des petites victoires quand même, mais ce qui nous tient, c'est le collectif. Voilà. Si on pense seul, si on pense individu, ça ne marche pas. Et je vois que moi, je suis dans les mouvements féministes et je vois que ce qui marche, c'est le collectif. C'est pas le fait de dire on veut chacune de faire ceci, cela. Non, il faut penser collectif et agir collectif. C'est la seule solution.
Absolument. Je rejoins tout à fait Fabienne là-dessus. Et d'ailleurs, moi, je trouve que la jeune génération ne s'y trompe pas. Il y a beaucoup de luttes qui sont en train de se... notamment par rapport à l'écologie, à l'environnement, à l'avenir, hein, en train de se constituer, de venir. Alors évidemment, ce n'est pas du tout la même forme que celle qu'on a connue dans nos générations, mais c'est des formes de résistance. Hein. Et puis surtout, ils veulent un avenir possible, quoi. Ils veulent prendre en main leur avenir et ils ne veulent pas lâcher. Et ils ne lâcheront pas. Et ne lâchons rien, mais surtout, comme le dit Fabienne, le collectif, rien que le collectif. Sinon, on passe tous à la moulinette. Hein. D'ailleurs, ils nous vendent tous, hein, vous savez, cette fameuse démocratie participative, là, ces enquêtes d'utilité publique, hein. Mais c'est des machines à consentement, voilà, hein, et consentement pour faire... Il y a un auteur qui a écrit un bouquin là-dessus, c'est tout à fait ça, c'est des trucs à consentement. Alors, ne soyons pas dupes, et voilà, et formons ensemble des collectifs, ça marchera toujours. Merci en tout cas Philippe et à Fabienne, et moi je vous invite absolument à acheter cette BD, et surtout à la faire tourner chez vous, vraiment partout, 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 chez vous au travail aussi.
C'était Rencontre avec Philippe Guillaume et Fabienne Loret autour de leur bande dessinée Une féministe révolutionnaire à l'atelier, L'envers de Renaud Flin, paru aux éditions La Boîte à Bulles.
Radio Livre d'Or.